Alors effectivement, c'est un exercice très difficile que d'apporter des conclusions comme ça à chaud, à partir de débats qui ont été aussi riches que ceux que nous avons eus pendant ces deux jours. Je vais quand même essayer de le faire, puisque c'est pour ça que j'ai la parole. Nos universités d'automne sont dans la vie de la Ligue un moment important, une sorte de rendez-vous annuel qui, tout autant que les congrès, rythme notre activité. L'expérience montre que les sujets abordés sont variés, avec toujours en toile de fond la question des droits, de leur universalité, de leur indivisibilité et de leur effectivité. Sans cela, il est clair que ce ne serait pas une université d'automne de la Ligue. Et on sait combien, dans la vraie vie, tout ça fait l'objet de combats incessants qui sont portés par les militants qui font la Ligue. Et j'ai l'impression que ces combats incessants ne vont pas vraiment aller en s'arrangeant, quelle que soit la fumée blanche qui sortira ce soir. Et d'ailleurs, j'utilise à dessein le terme de fumée blanche, puisque les deux impétrants, bien sûr, en toute laïcité, se réclament de leur proximité avec sa sainteté. Voilà. Alors, nos universités d'automne sont aussi un moment de réflexion, d'échange, toujours trop bref, même si nous avons fait un effort cette année pour limiter le nombre de participants aux tables rondes, et puis de débats qui sont souvent inaboutis, mais ces débats seront évidemment repris dans le cadre de l'activité de la Ligue, dans ses publications, dans les groupes de travail. C'est aussi les universités d'automne, c'est comme ça qu'elles sont conçues, comme un moment de formation et d'information. Et je crois qu'en faisant cela, la Ligue s'inscrit pleinement dans la tradition de l'éducation populaire. Je crois que ça a été particulièrement vrai cette année. Souvent, les universités d'automne ont été pour nous l'occasion d'approfondir des questions qui nous sont familières. Je pense à l'université d'automne de l'année dernière sur les questions du racisme et des nouvelles formes d'antiracisme. Cette université d'automne fut une réussite, mais notre réflexion ne partait pas de rien. Ces questions constituent un des piliers de la réflexion de la Ligue depuis sa création, et sans aucun doute, elles continueront de l'être. Je crois qu'il en était vraiment autrement du thème choisi cette année, thème qui, dans un premier temps, je le sais parce que certains me l'ont dit, a pu en déconcerter un certain nombre d'entre vous. J'espère donc que ces deux jours, pendant lesquels nous avons fait œuvre de défrichage et de déchiffrage, je crois, vous auront donc permis de mieux cerner une notion qui, pour reprendre en partie la définition d'Elinor Ostrom, renvoie à la fois à des ressources matérielles et immatérielles et à une forme spécifique de propriété. Par ailleurs, cette notion a montré qu'elle se prête à de nombreuses entrées, qui se trouvent au croisement de différentes disciplines et qui autorisent tout autant une approche philosophique, sociologique, juridique qu'économique. Et je vous renvoie à cela, donc, au débat que nous avons eu hier matin. Donc, nous l'avons vu, les communs, c'est tout à la fois l'air, l'eau, le sol, les forêts, la terre, mais aussi les connaissances, la culture, autant d'espaces qui devraient être en principe ouverts à tous, mais qui sont aujourd'hui menacés par l'extension du marché. La question des communs, ça a été dit à plusieurs reprises, est au cœur même de l'histoire du capitalisme. Et, fait notable, elle a même été tout de suite au cœur de l'émergence de droits civils, politiques, économiques et sociaux. Cet ensemble de droits que la Ligue n'entend pas dissocier depuis 1909, grâce à la présidence de Francis de Pressensé, qui fut vraiment, je crois, un grand président de la Ligue. Je m'explique. Dans l'Angleterre du XIIIe siècle, il est clair que l'enclosure des communs a jeté dans le dénuement le plus total ceux dont la survie dépendait de ces terres ouvertes aux récoltes de tous. Cette enclosure a suscité de grands mouvements populaires et des figures romanesques marquant l'imagination, comme celle de Robin des Bois. Finalement, un armistice fut trouvé avec l'élaboration de deux traités. À un premier traité qui s'appelle la Grande Charte, et ce premier traité consacrait ce que nous appellerions aujourd'hui les droits civils et politiques et offrait la garantie de procès équitables et la nécessité de placer l'autorité royale sous le régime collectif de respect du droit. Le deuxième traité, la Charte des forêts, consacrait les droits économiques et sociaux en définissant les droits des usagers des forêts qui étaient les communs de l'époque. Dès lors, cette question des communs a traversé toutes les révoltes populaires, tout comme elle a traversé toutes les tentatives d'élaborer un droit et des lois qui équilibrent les sociétés en respectant les humains qui la composent. En sens inverse d'ailleurs, et cela a été évoqué hier, on peut relire l'histoire de la colonisation, de l'esclavage et de la prolétarisation comme une volonté de réduire les communs et d'imposer le règne de la marchandise, à la fois pour dégager de nouveaux espaces de profit, mais aussi pour limiter les capacités d'auto-organisation des populations. Concept qui vient de loin, donc, la question des communs nous inscrit dans le présent et nous tourne aussi résolument vers l'avenir. On a assisté à une véritable explosion du thème du commun, autant dans les pratiques que dans les réflexions théoriques, au point qu'aujourd'hui, il irrigue effectivement de nombreuses pratiques, variées et hétérogènes, et il est devenu une référence centrale pour de multiples foyers de lutte et d'expérimentation politique et économique. C'est le cas, par exemple, des mouvements altermondialistes et écologistes. Ça concerne aussi la défense des services publics, ça concerne aussi des résistances paysannes, coopératives et des expérimentations numériques collectives. Clairement, nous avons eu au cours de ces deux jours pu mesurer la dimension transversale de cette question, mettant en jeu l'accès à certains droits de manière universelle, l'existence ou non, ça a été évoqué ce matin, d'un droit commun de l'humanité, mettant en jeu la question de la propriété et notamment celle de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Au fond, et c'est peut-être ce qu'il nous faut retenir de ces deux jours, cette question est en passe de devenir un outil majeur pour penser, un outil qui ouvre de nouvelles portes, une troisième fois, ça a été dit, et qui est en adéquation avec des questions du siècle qui débutent, qu'il s'agisse de la crise écologique, de l'éruption des réseaux numériques, de l'économie de la connaissance, de la modification profonde des régimes de production, de la redéfinition des droits de la propriété immatérielle. Enfin, et je m'arrêterai là pour ne pas donner l'impression de refaire les débats, il me semble que pendant ces deux jours, pendant lesquels nous avons voulu articuler réflexion théorique et réflexion sur des pratiques qui un peu partout foisonnent, et j'avais effectivement retenu le terme de foisonnement, pratiques qui parfois bousculent nos certitudes, je pense à un mouvement comme Nuit Debout, qui, au sein de la Ligue, a vraiment fait débat, eh bien, je pense que, finalement, pendant ces deux jours, il y a une question qui a un peu surplombé tous nos débats, c'est celle de la démocratie. Sur cette question, il y a, je crois, au sein de la Ligue, mais largement au-delà, un relatif consensus sur le côté obsolète de l'actuelle Constitution. Mais la crise de la démocratie nécessite qu'on prenne en exemple autre chose qu'une critique, aussi fondée soit-elle, des institutions. Ce que met en jeu la question des communs, c'est bien de possibles articulations entre démocratie représentative, démocratie locale, nouvelles formes de démocratie participative. Ça pose de redoutables questions. Par exemple, quelles sont les limites de ces différentes formes de nouvelles démocraties ? Ces nouvelles formes de démocratie sont-elles forcément plus démocratiques ? Comment déterminer ce qui va présider à la prise de décision en fonction de quel intérêt général ? Comment va-t-on déterminer aussi ceux, CUX cette fois, qui vont présider à la prise de décision ? Alors, je ne sais pas quand la Ligue aura l'occasion de revenir sur ces questions. Elle y reviendra au moins dans Hommes et Liberté, puisque le prochain Hommes et Liberté, le dossier sera sur les communs. Mais je crois que nous avons, pendant ces deux jours, ouvert un nouveau chantier. Pas nouveau en soi, évidemment, mais nouveau pour nous. Il est important que nous ne laissions pas ce chantier se refermer. C'est une question du renouvellement pour la Ligue, mais pas seulement. Ça va au-delà de ça. Je crois que ces questions touchent au devenir de l'humanité, mais surtout au devenir de notre commune humanité. Laisser ce chantier se refermer, ce serait entériner un repli de la Ligue sur elle-même, alors que, j'en suis convaincue, mais je ne suis pas la seule, la Ligue a besoin d'ouverture. Ouverture aux autres, bien sûr, ouverture à d'autres partenaires, et on ne peut que se réjouir, effectivement, de ceux qui étaient aujourd'hui, cet après-midi à cette table, et puis, bien sûr, ouverture à d'autres problématiques. Je crois que c'est vraiment cette volonté d'ouverture qui va permettre à la Ligue de rester à la fois une association qui sait être réactive quand les droits et les libertés sont menacés. Nous en avons fait la démonstration, je crois, tout au long de l'année, avec l'état d'urgence, avec l'affaire du Burkini, par exemple. Mais aussi, il faut que la Ligue soit une association en prise avec les évolutions du monde, et je dis à dessein du monde, et pas seulement de notre société, qui, reconnaissons-le, a tendance à être un petit peu trop ethnocentrée et a du mal à croire qu'elle n'est plus seule au monde, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Bertrand Badie que nous avons accueilli, souvent accueilli. Voilà, et bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite à tous bon retour. Merci. Bel exercice.